humaine. Et alors aujourd'hui, par contraste, en quelque sorte, nous allons voir toujours en suivant Rankin, en quel sens il y a une vérité dans le fait d'être anti-systématique. Alors, il n'y a pas là une opposition de contradictoire, mais il y a au fond deux choses auxquelles nous devons penser dans notre réflexion de chrétiens, quel que soit le domaine examiné. Veiller à être pro-systématique, et cependant veiller, en un autre sens bien sûr, à être anti-systématique. Alors, tout d'abord, la foi chrétienne n'est pas systématique par voie de déduction, comme si chaque doctrine impliquait logiquement les autres. Le danger, c'est d'avoir un concept maître, un concept radical, à partir duquel la foi chrétienne pourrait être déduite. Au fond, il faut éviter d'être pro-systématique par logique ou d'être pro-systématique en utilisant une doctrine ou un concept qui serait la doctrine ou le concept à partir de laquelle ou duquel on déduirait le reste. Et ça, c'est Rankin insiste beaucoup là-dessus, et je crois qu'il a raison. Ça n'est pas seulement vrai pour la théologie, c'est vrai pour toute pensée. Il faut faire attention à... Bien sûr, il faut faire attention à être systématique, mais il ne faut pas être systématique parce que on voudrait tout déduire logiquement d'une doctrine ou d'un concept. D'ailleurs, Rankin souligne que le système chrétien est, par rapport à notre logique déductive, plein d'apparentes contradictions. Et c'est pourquoi Rankin parle du caractère paradoxal de notre connaissance. Toute connaissance est paradoxale en ce sens qu'elle doit assumer d'apparentes contradictions. Il faut bien faire attention, nous ne pouvons pas assumer de réelles contradictions. Parce qu'alors, notre pensée ne formerait plus un ensemble, notre pensée ne serait plus systématique dans le bon sens du mot, et notre pensée serait incohérente. Une pensée qui assume de réelles contradictions est une pensée incohérente. Et Rankin refuse qu'une pensée puisse être incohérente. On ne peut pas affirmer à la fois le oui et le non. On ne peut pas affirmer à la fois une chose et son contraire. On ne peut pas affirmer ensemble ce qui se contredit. Mais, alors je vous cite la phrase de Rankin qui exprime bien, nous rejetons comme un poison l'idée d'un contradictoire réel, je répète, nous rejetons comme un poison l'idée d'un contradictoire réel, et nous embrassons passionnément les contradictoires apparents. Nous rejetons comme un poison l'idée d'un contradictoire réel, et nous embrassons passionnément les contradictoires apparents. Vous voyez l'importance de ce point. Il va y avoir nécessairement Et ça, ça paraît antisystématique. Il va y avoir d'apparentes contradictions. Et qu'il faut assumer. C'est-à-dire qu'il faut prendre ensemble les apparentes contradictions tout en rejetant, a priori, toute réelle contradiction. Alors, mon cours de ce matin va consister à prendre 5 exemples sur le plan théologique. On pourrait prendre d'autres exemples en ce qui concerne d'autres disciplines ou d'autres formes de pensée, mais nous allons voir comment la chose se présente en théologie. Une bonne théologie est systématique en ce sens qu'elle refuse les contradictions réelles, mais une bonne théologie est antisystématique en ce sens qu'elle assume d'apparentes contradictions. Premier exemple. La doctrine de la Trinité, la doctrine du Dieu Trinité. Quand nous lisons la Bible, quand nous prenons la Bible dans son ensemble, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que la Bible nous parle de Dieu comme d'une personne. Dieu, c'est quelqu'un au singulier. Dieu, c'est quelqu'un. Dieu est personnel. Dieu est personnel. Et cependant, la Bible nous parle aussi de Dieu comme de trois personnes. La personne du Père, celle du Fils et celle du Saint-Esprit. Alors nous avons là une apparente contradiction. En un sens, les trois sont une seule et même personne. Et en un sens, l'un est trois personnes. Il faut faire très attention ici. Dieu est singulier, en ce sens qu'il est un seul, et cependant Dieu est trine. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors on a là une apparente contradiction. Et une apparente contradiction, dès qu'un théologien n'est que trop logique, il va rejeter l'apparente contradiction en supprimant l'un des termes. Autrement dit, il va prendre l'apparente contradiction comme une contradiction réelle, et il va dire c'est impossible que Dieu soit à la fois un et trois. Alors là, on prend la chose d'une façon presque simpliste, en disant un n'égale pas trois. Or, puisque la Sainte Écriture nous parle de Dieu comme d'une personne, et qu'elle nous parle aussi de Dieu comme de trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous devons assumer dans notre réflexion théologique cette apparente contradiction. Nous ne devons pas simplifier les choses en supprimant l'un des apparents contradictoires. Je voudrais d'ailleurs vous dire ici que on ne peut pas facilement résoudre la question comme certains théologiens semblent devoir la résoudre en disant « pardon, pardon, pardon ». Nous disons qu'il n'y a qu'une substance divine, qu'une essence divine, qu'un être divin. Et nous disons qu'il y a trois personnes. Autrement dit, nous ne disons pas qu'il y a une personne et trois personnes, nous disons qu'il y a une essence, un être divin, et qu'il y a trois personnes. Mais c'est très dangereux de se lancer dans ce genre de raisonnement. Parce qu'alors, l'unité divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit serait impersonnelle. Il y aurait derrière les trois personnes divines un fatum, une chance impersonnelle, une réalité impersonnelle. Or, dans l'Écriture sainte, il est bien question de Dieu au singulier comme d'une personne, en même temps qu'il est question de Dieu comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il y a là un paradoxe qu'il nous faut assumer en théologie. Et évidemment, nous butons là, notre pensée logique bute là contre cette apparente contradiction, mais il faut l'assumer. Il ne faut pas résoudre l'apparente contradiction en supprimant l'un des termes. Il faut prendre ensemble la chose. Oui, il n'y a qu'un Dieu. Et ce Dieu est quelqu'un au singulier, une personne au singulier. Et cependant, Dieu aussi, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il y a là trois personnes, puisque Jésus lui-même nous dit quelle est sa relation mystérieuse entre le Père et lui. Eh bien, il faut assumer cette apparente contradiction. Un deuxième exemple, mais vous allez voir qu'il se rapproche du premier, c'est la relation entre la nature de Dieu, l'être de Dieu, et les attributs de Dieu. Et les attributs. Autrement dit, nous affirmons là aussi en Dieu l'un et le multiple. De même qu'avec la doctrine de la Trinité, nous affirmons de Dieu l'un et le multiple, une personne, trois personnes. Là aussi, nous affirmons la simplicité de la nature de Dieu, l'unicité de la nature de Dieu, et cependant nous distinguons des attributs de Dieu, la sainteté, la justice, l'amour, la bonté, etc. Or, là aussi, c'est difficile pour notre pensée de voir cette diversité des attributs de Dieu sans, pour cela, lâcher la diversité des attributs. Il y a la diversité des attributs et il y a l'unité, la simplicité de Dieu. Dieu n'est pas composé. Dieu n'est pas composé. Il est un, il y a aussi un dans son être, et cependant, il y a la diversité de ses attributs. Maintenant, nous allons toucher à un problème peut-être plus difficile, surtout pour vous qui êtes en première année de théologie. Mais c'est tout au long de l'histoire de l'Église, les théologiens, dès qu'ils réfléchissent, et il faut bien réfléchir dans les théologiens, se sont trouvés devant la question du rapport entre la nécessité et la liberté de la volonté de Dieu. Je voudrais essayer d'être aussi simple que possible pour faire comprendre une question qui s'est posée aussi bien à Saint Augustin, qu'elle s'est posée à Saint Thomas d'Aquin, qu'elle s'est posée à Calvin, qu'elle se pose aux théologiens. Si la volonté de Dieu est dirigée par son intelligence, alors les actes libres de Dieu, la création par exemple, deviennent nécessaires. Dieu a à créer. Dieu doit créer. Il ne pouvait pas se faire que Dieu ne crée pas. Autrement dit, la création de Dieu n'est plus un acte libre de Dieu, mais elle est une nécessité de Dieu. Dieu ne peut pas ne pas créer. Il était nécessaire que Dieu créât. Mais à l'inverse, si les actes de Dieu sont vraiment libres, alors il semble qu'ils sont comme déconnectés de son intelligence. On pourrait dire à la limite, il est arrivé, comme sans raison, que Dieu a créé. C'est arrivé comme ça. Or, il faut toujours en revenir à l'écriture. L'écriture requiert que nous affirmions tout ensemble l'intelligence des actes de Dieu et la liberté des actes de Dieu. Comme s'il y avait deux sortes de nécessités, celle de la nature de Dieu et celle de la liberté de Dieu. C'est vrai qu'en un sens, Dieu devait créer, puisque l'intelligence de Dieu le concevait. Et en autre sens, non, Dieu aurait très bien pu ne pas créer, mais librement, il a décidé de créer. Donc, vous voyez, c'est un conflit, par exemple, c'est tout le conflit qu'il va y avoir entre les thomistes et les scotistes. Au Moyen-Âge, on retrouvera ce conflit aussi dans tous les théologiens, chez tous les théologiens du 19e et du 20e siècle. Dieu a créé, voilà le fait. Mais, en un sens, il fallait que Dieu créât, puisque son intelligence l'avait conçu. Et en autre sens, non, ce n'était pas nécessaire que Dieu créât. Il a créé parce qu'il l'a voulu ainsi. Il l'a créé librement. Il n'a pas créé le monde nécessairement. Alors on se trouve dans cette sorte d'apparente contradiction. Dieu a créé nécessairement et Dieu a créé librement. Il fallait que Dieu créât. Dieu aurait pu ne pas créer. Et là aussi, notre intelligence est déroutée. De même que notre intelligence est déroutée devant l'un et le multiple du Dieu trinitaire, de même que notre intelligence est déroutée par l'unité de l'être divin et la diversité de ses attributs, et bien là aussi, nous ne pouvons pas trancher de manière unilatérale en disant « Dieu ne pouvait pas faire autrement que de créer, et Dieu a créé librement. » Pour notre intelligence finie, puisque nous sommes des créatures finies, pour notre intelligence finie, il y a là, il semble qu'il y ait là, une apparente contradiction, et en tout cas une contradiction apparente, que notre logique ne parvient pas à assumer rationnellement. Mais puisque l'Écriture nous dit les choses ainsi, comme théologiens, nous nous soumettons à l'Écriture qui est la parole de Dieu. Et nous savons que en Dieu, il n'y a pas de contradiction. Nous savons aussi qu'il n'y a pas de réelle contradiction dans la révélation de Dieu. Donc, pour nous, intelligence finie, il y a là d'apparentes contradictions qu'il nous faut assumer. J'ai rapproché les deux premiers exemples, celui de la Trinité et celui de la liaison entre la simplicité divine, l'unité divine et la diversité des attributs. Et là aussi, je vais grouper ensemble plus ou moins mon troisième point, qui était celui que je viens de dire sur nécessité et liberté, et mon quatrième point. Oui.
Je vais donner un exemple de texte où la nécessité de la création est soulignée. La liberté, ça, je pense que c'est Genèse 1, par exemple, au début Dieu créa, ça paraît sans
Ah non, ah non, pas forcément. Parce que même là, quand au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Voilà aussi. a-t-il créé? Parce qu'il fallait qu'il créât. Ou a-t-il créé parce qu'il a décidé librement de créer? Donc, même ce texte que vous citez, tous les textes de l'Écriture comportent cette question. Vous voyez, c'est pour ça qu'on ne peut pas citer des textes qui iraient dans un sens et d'autres textes dans l'autre. Si nous nous trouvons devant cette question, alors peut-être que ce que je dis pour le quatrième point va vous éclairer un peu. Dieu se suffit à soi-même. Il n'a besoin de rien en dehors de lui. Il ne peut pas devenir plus que ce qu'il est, puisqu'il est pleinement Dieu. Il ne peut progresser en connaissance, ou en amour, ou en pouvoir, ou en gloire, puisqu'il a toute connaissance, tout amour, tout pouvoir et toute gloire. Un plus grand que Dieu est inconcevable. Un progrès en Dieu est inconcevable. Dieu est Dieu éternellement. Dieu n'est pas de plus en plus Dieu. Donc, Dieu se suffit à soi-même. Dans un sens, on ne peut pas ajouter à Dieu. Pas d'addition. Dieu, rien que Dieu. Et cependant, la Bible nous montre que Dieu a créé l'univers pour sa gloire, pour entrer en relation de connaissance, d'amour et de pouvoir avec d'autres que lui. Autrement dit, il y a addition puisqu'il y a Dieu plus la création. Alors vous voyez, la parole en contradiction. On ne peut pas dire que Dieu, sans la création, soit moins que Dieu plus la création. Puisque Dieu est tout autant Dieu sans la création que Dieu avec la création. Et cependant, quand on dit Dieu et la création, il semble bien qu'on dise plus que quand on dit Dieu seulement. Alors, là aussi, il y a une apparente contradiction. Dieu n'a pas besoin de la création pour être Dieu. La création n'ajoute rien à Dieu. Dieu est tout autant Dieu avant la création qu'après. Et cependant, il y a Dieu et la création. Alors oui, là aussi, et là ce quatrième point se rapproche du troisième, et c'est très important. La création n'ajoute rien à la gloire de Dieu. Et cependant, elle ajoute à la gloire de Dieu. Alors les théologiens, là aussi, ils ont fait une sorte de distinction. Ils ont parlé de la gloire essentielle de Dieu, qui est éternelle, qui est immuable, qui ne change pas. Et puis, ils disent, il y a aussi la gloire déclarative de Dieu. C'est-à-dire que Dieu communique quelque chose de sa gloire essentielle à ce qu'il crée. Il déclare sa gloire dans sa création. La gloire de Dieu ne changerait pas, ne bougerait pas, mais Dieu déclarerait cette gloire qui ne change pas à la création. Mais là aussi, je dirais, on voit bien que c'est un peu un truc de la pensée, un petit peu comme c'est un truc de dire au sujet de la Trinité qu'il y a une seule substance et trois personnes. Parce qu'à partir de là, on ferait passer derrière les trois personnes une réalité impersonnelle, qui serait l'essence de Dieu, qui serait la substance de Dieu. Or, on ne peut pas parler de la substance de Dieu comme étant impersonnelle. Mais le troisième exemple, le dernier exemple, c'est celui sur lequel la pensée chrétienne bute le plus. Je crois que c'est là où il y a le plus de difficultés, et je crois que même les chrétiens qui admettent que Dieu soit une personne ou trois personnes, que Dieu soit un et multiple avec son unité et ses attributs, que Dieu si vous voulez, ait dû créer, et en même temps qu'il a créé librement. Et puis ce dernier texte nous envoie que Dieu se suffit à soi-même, et que cependant, il a voulu sa création. Bon. Ben, vous avez des chrétiens qui finalement admettent. Je dirais même que on veut dire que si vous prenez la théologie orthodoxe protestante, je veux dire la liturgie luthérienne, calviniste, la liturgie évangélique, là, je dirais, pas la liturgie, la théologie, si vous prenez la théologie luthérienne ou calviniste ou évangélique, si vous prenez la théologie catholique romaine, si vous prenez la théologie de l'Église d'Orient, les orthodoxes d'Orient, si vous prenez tous les ensembles de la théologie chrétienne, elle n'a pas de problème avec les quatre points que je viens de dire. Je crois qu'un catholique romain, rigoureux, qu'un orthodoxe oriental, rigoureux, et qu'un protestant évangélique, rigoureux, au fond, sur les quatre points dont je viens de parler, sont d'accord. Ils assument tous, leur théologie assume toutes ces apparentes contradictions dont je viens de parler. Tandis que le dernier exemple, c'est plus difficile. Et au fond, on peut se demander, à l'heure actuelle, qui, en dehors des réformés, au sens fort et précis du mot, au sens confession du mot, accepte de la suivre. Remarquez, je crois que si mon ami, le pasteur Chabin, qui était là la semaine dernière, et qui est un, tout en étant protestant, qui est en philosophie un disciple de saint Thomas, je crois qu'il nous dirait que Thomas d'Aquin serait d'accord avec les réformés, et on peut penser aussi que certainement des hommes comme saint Augustin, ou saint Bernard, ou saint Anselme seraient d'accord avec les réformés. Mais s'il est moins sûr que les théologiens catholiques romains aujourd'hui seraient d'accord. Alors voilà mon dernier exemple. Je frémis un peu en disant pas loin, mais il faut en parler. Le dessein de Dieu, dessein D-E-2-S-E, le dessein de Dieu, le plan de Dieu, inclut-il le mal? Le dessein de Dieu, le plan de Dieu, inclut-il le mal? Eh bien là, on se trouve devant un apparent paradoxe qui fait qu'on doit répondre à cette question à la fois oui et non. Dieu, dans son dessein éternel, a préordonné et donc inclut l'événement historique du mal, c'est-à-dire la chute d'Adam, et par voie de conséquence ultime, la damnation des réprouvés. Je répète, Dieu a préordonné l'événement historique du mal et la damnation des réprouvés. Et cependant, Dieu n'est aucunement l'auteur du mal et les réprouvés sont inexcusables. Alors vous voyez là quelle est l'apparente contradiction. La logique voudrait que si l'on affirme que Dieu a préordonné l'événement historique du mal et la damnation des éprouvés, Dieu soit alors l'auteur du mal. Et les éprouvés, à ce moment-là, deviennent excusables. À l'inverse, si l'on tient que Dieu n'est aucunement l'auteur du mal et que les réprouvés sont inexcusables, alors Dieu, si l'on veut suivre une logique, n'a pas préordonné l'événement historique du mal et la damnation des réprouvés. Donc, si vous voulez, il y a là une apparente contradiction. Et là, les confessions de foi réformées, quelles qu'elles soient, que ce soit la confession gallicane, c'est-à-dire la confession de foi de La Rochelle, que ce soit la confession belgica, c'est-à-dire la confession des Pays-Bas, que ce soit la confession de Westminster, que ce soit la seconde confession hébétique, vous pouvez prendre toutes les grandes confessions de foi réformées, elles affirment ensemble les deux choses. Dieu a préordonné l'événement historique du mal et la damnation des éprouvés, et cependant Dieu n'est aucunement l'auteur du mal et les réprouvés sont inexcusables. Autrement dit, on tient ensemble, là encore, les deux termes qui constituent une apparente contradiction. Et là, c'est très curieux de voir que, tandis que la plupart des chrétiens sont d'accord sur les quatre premiers exemples que j'ai pris, sur le cinquième exemple, et c'est très mystérieux, ça, pourquoi, alors là, ça ne marche plus, la plupart des chrétiens veulent être logiques, se refusent à assumer l'apparente contradiction, et ils choisissent ou bien que Dieu a préordonné l'événement historique du mal et de la nature de l'éprouver, mais alors, si on y suivait cette logique, il dirait que Dieu est l'auteur du mal, remarquez, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup qui choisissent ça. Mais on choisit plutôt l'inverse. C'est-à-dire que, puisque Dieu ne peut pas être auteur du mal et que les réprouvés sont inexcusables, donc Dieu n'a pas pu préordonner l'événement historique du mal et la damnation. Nous sommes là donc devant une question qui est très grave. Parce que finalement, il faut bien voir l'enjeu. Si on choisit la voie logique qui rejetterait la préordination de l'événement historique du mal et de la nation des éprouvés, alors c'est toute la question de la toute-puissance de Dieu, de la souveraineté de Dieu, qui est mise en cause. Peut-on dire que Dieu est souverain? Peut-on dire que Dieu est tout-puissant? Donc, à la limite, peut-on dire que Dieu est Dieu? Si il n'est pas le souverain Seigneur ayant préordonné l'événement historique du mal et la damnation. Donc, vous voyez, l'enjeu est important. Pour les réformés, il ne peut pas y avoir de problème dans la mesure où, dans le grand exposé que fait Paul de la prédestination, dans le chapitre 9 à 11 de Romains, Paul conclut en montrant que là, il ne peut plus être question de logique. Vous savez comment Paul termine le chapitre 11 des Romains, qui a parlé de la prédestination, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. En effet, qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Tout est de lui, par lui et pour lui, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Donc, si vous voulez, le théologien réformé s'abîme comme saint Paul dans l'adoration. Sa logique d'homme fini ne peut pas comprendre. Sa logique d'homme fini ne peut pas saisir comment tiennent ensemble ces deux apparents contradictoires, mais le théologien réformé fait ce que Van Til dit qu'il faut faire, c'est-à-dire qu'en rejetant comme un poison l'idée d'un contradictoire réel, il embrasse passionnément des contradictoires apparents. Et ça, c'est l'adoration de Dieu. Une vraie théologie s'abîme dans l'adoration. Un vrai théologien accepte humblement d'embrasser d'apparents contradictoires. Il refuse que la logique humaine soit reine et maîtresse dans la pensée. Alors là, on retrouve ce dont nous avons déjà parlé. Il s'agit de savoir si la raison va être norma normans, c'est-à-dire une norme qui norme, ou si la raison humaine va accepter d'être une norma normata, c'est-à-dire une norme qui doit être normée, réglée par la Sainte Écriture, par la parole de Dieu. Alors vous voyez, apparemment, ce qui nous est très difficile à comprendre pour nous, théologiens réformés, c'est comment des chrétiens dont nous ne doutons pas une seconde qu'ils soient vraiment chrétiens, comment des chrétiens peuvent accepter des apparents contradictoires en ce qui concerne les quatre premiers exemples que j'ai pris, et puis alors, devant ce dernier apparent contradictoire dont je viens de parler, on dirait que là, ils ont accepté de ne pas suivre la logique humaine sur les quatre premiers exemples, mais alors, pour le cinquième exemple, ils veulent suivre la logique humaine. Tandis que nous, liés par la Sainte Écriture, qui est la parole de Dieu, nous disons, eh bien, tant pis pour la logique humaine, nous croyons que Dieu n'est pas l'auteur du mal, nous croyons que les réprouvés sont inexcusables, mais en même temps, nous croyons que si la chute est arrivée, et s'il y aura finalement des damnés, cela est inscrit dans la volonté d'écriture, dans le plan éternel, dans le dessein éternel de Dieu. Pourquoi ? Mais simplement parce que l'écriture nous dit les deux choses. Alors, de même que l'écriture nous dit que Dieu est une personne et qu'il est trois personnes, alors nous recevons les deux choses ensemble, et nous confessons la Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Et là, c'est la même chose. Nous ne comprenons pas comment Dieu a inscrit la chute et la damnation des réprouvés dans son plan éternel, en même temps qu'il y a une responsabilité et une inexcusabilité des réprouvés, et qu'il y a en aucune manière la possibilité de faire de Dieu l'auteur du mal. Dieu est saint. Il est tellement saint qu'il n'y a pas en Dieu l'ombre de l'ombre de l'ombre d'un péché. Il n'y a pas en Dieu l'ombre de l'ombre de l'ombre d'un mal. Alors, comment la sainteté de Dieu peut aller avec cette volonté qu'il y ait la chute et qu'il y ait des damnés? Eh bien, nous disons, l'Écriture nous l'enseigne, l'Écriture nous le révèle, et nous nous inclinons devant cela, parce que la Bible nous parle de la réalité des réprouvés. Il en est au dernier jour qui seront jetés dans la damnation éternelle. C'est la Bible qui nous le dit, c'est même Jésus qui le dit, quand Jésus nous parle du jugement dernier. Nous préférerions qu'il n'y ait pas de damnés en un sens. Mais il ne s'agit pas de savoir si on préférait qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas. Il ne s'agit pas de nos préférences, ni des préférences de notre logique, ni des préférences de nos sentiments. Il s'agit de savoir ce que la parole de Dieu nous dit, ce que la parole de Dieu nous révèle. J'avais fini de préparer ce cours lorsque, pas par hasard, puisqu'il n'y a pas de hasard, mais par une providence de Dieu, je suis tombé sur un paragraphe d'un théologien réformé américain du siècle dernier, dont l'œuvre n'a pas été traduite en français. Il y a de grands théologiens réformés américains qui sont connus, plus connus, et dont on a traduit en tout cas des articles Tel que Schelde, à ma connaissance, on n'en a rien traduit en France. Et alors, dans sa dogmatique théologique, à la page 421, c'est tout frais, à ma connaissance, elle date de hier soir et de ce matin. De hier soir pour le paragraphe. Été cité, et puis de ce matin dans la référence exacte, page 421 de sa dogmatique, voilà ce que dit Schelde. Alors, vous allez voir, ce que dit Schelde fait bondir inévitablement tous ceux qui ne sont pas réformés confessionnels. Et en même temps, ce que dit Schelde est éclairant pour les réformés confessants dont je suis. Alors, vous voyez, il est possible que ici, parmi vous, il y en a plusieurs qui soient horriblement choqués par ce que dit Schelde, et il y en a d'autres, au contraire, qui... ça, c'est la liberté de chacun. Vous savez que dans notre faculté, on enseigne la théologie réformée confessante, non ? Mais ça ne veut pas dire que les étudiants doivent être tous réformés confessants. Ça, je dirais, à chacun de vivre selon sa liberté, selon les dons que Dieu lui fait. Donc, je vous cite ça pour vous montrer comment un théologien réformé peut raisonner au sujet du péché. Alors, voilà ce qu'il dit. Ne l'écrivez pas, si vous voulez, je vous donnerai le texte après, mais essayez de bien suivre. Voilà ce qui est aussi un court paragraphe. La raison, non pas humaine, mais divine, la raison de la permission du péché était de manifester certains attributs divins pour... la miséricorde et la compassion et ce qui leur est apparent. La passion du Dieu incarné, c'est-à-dire les souffrances de Jésus, la passion du Dieu incarné et l'expiation vicaire, c'est-à-dire ce que Jésus-Christ a expié à notre place, c'est le sens du mot vicaire. La passion du Dieu incarné et l'expiation vicaire, avec tout ce qu'elle manifeste de la gloire divine, aurait été impossible dans un univers sans péché. L'intention était que les... Alors là, une citation d'Éphésiens 3:12. L'intention était que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Les attributs de justice et de sainteté, eux aussi, quoique présentés dans la religion naturelle, obtiennent un bien plus impressionnant déploiement dans la méthode de la rédemption. Bon, vous permettez de commenter, pour terminer ce cours, ce que dit Schelde. Voyez, saint Anselme, au Moyen-Âge, avait posé dans un opuscule la question « Cours Deus homo ». C'est-à-dire, pourquoi le Dieu homme ? Et alors, la question, c'est maintenant, cours pédagogique. Pourquoi le péché ? Alors, nous ne pouvons pas avoir, selon la logique humaine, une réponse à cette question. Mais, la proposition de Schelde est la suivante. Dieu a permis et donc voulu le péché. Parce que, finalement, à cause du péché, sa gloire allait pouvoir être manifeste. Sans le péché, on ne saurait rien de la miséricorde de Dieu. Sans le péché, on ne saurait rien de la compassion de Dieu. Sans le péché, Dieu n'aurait pas eu à s'incarner pour souffrir et mourir sur la croix. Sans le péché, Dieu ne serait pas venu en son Fils Jésus-Christ expier notre péché. Sans le péché, nous ne saurions pas ce qu'est vraiment la justice de Dieu, ce qu'est vraiment la sainteté de Dieu. Autrement dit, ces attributs dont je viens de parler, la miséricorde, la compassion, la justice, la sainteté de Dieu, sont comme déployés dans la méthode de la rédemption. Et s'il a fallu la rédemption, c'est qu'il y a eu le péché. Et alors, vous savez qu'au Moyen Âge, on avait... et il l'a condamné dans la mort de son fils, le péché. Donc Dieu n'est pas l'auteur du péché, Dieu condamne le péché. Et cependant, Dieu a permis le péché, et donc, en un certain sens, a voulu le péché, parce que sa gloire dans l'œuvre de Christ, dans l'incarnation du Christ, dans la croix du Christ, en est d'autant plus éclatant, d'autant plus rehaussé. Alors vous voyez, un théologien, que dit un croyant réformé, comprend. Je ne dirais pas qu'il le comprend logiquement, mais ça lui dit quelque chose, il comprend. Il dit avec les chrétiens du Moyen-Âge, Félix culpa, heureuse faute, qui nous a valu un tel rédempteur. Et finalement, il en glorifie encore plus Dieu. Le chrétien réformé glorifie encore plus Dieu du fait que Dieu, dans son plan, a permis le péché. Parce que c'est la splendeur de Dieu, c'est la compassion de Dieu, la miséricorde de Dieu, la justice de Dieu, la sainteté de Dieu qui n'en éclate que davantage. Bon, alors, bien entendu, on est chrétien réformé ou on n'y est pas. Et il y a beaucoup de vrais chrétiens qui butent sur ce dernier exemple que j'ai pris, qui n'acceptent pas qu'on puisse dire que Dieu a voulu l'événement historique de la chute et qu'il a voulu la damnation des réprouvés. Hein? Il y a des chrétiens qui sont de vrais chrétiens, mais qui ne peuvent pas aller jusqu'à accepter cela. Mais nous, chrétiens réformés, si nous acceptons cela, c'est parce que la Bible nous le dit. La Bible nous le dit. Et vous savez, il y a ces textes que je vous ai déjà cités à propos du livre des Actes, dans lequel aussi un chrétien réformé n'a pas de problème en lisant ces textes. Mais un chrétien qui n'est pas réformé, il a un problème. Vous savez, au chapitre 2 du livre des Actes, vous avez déjà ce passage. Il est question, oui, c'est Pierre qui parle. Israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant par la main des impies. Alors, oui, là est affirmé à la fois le dessein arrêté, la présence de prescience de Dieu, qui a voulu la croix de Jésus. Et cependant, ce n'est pas parce que Dieu a voulu la croix de Jésus que ceux qui l'ont fait mourir sont moins impies. Ils sont impies. Et puis vous avez l'autre passage, du livre des Actes, au chapitre 4, celui-là. Alors celui-là est peut-être plus net que l'autre. Contre ton saint serviteur Jésus, Hérode, et Ponce Pilate se sont ligués avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé là. Voilà, un réformé reçoit ça. Tandis que quelqu'un qui n'est pas réformé, ça passe pas. Parce que comment est-ce que Dieu a pu vouloir le crime d'Hérode et de Pilate? Parce que, on peut dire, si on est logique, alors si Dieu a voulu le crime d'Hérode et de Pilate, Hérode et Pilate sont excusés. Ils ne sont pas coupables. Et ici, les textes que je viens de vous lire montrent, ce sont des impies, et ils sont coupables, et ils ont commis un crime. Et cependant, Dieu a intégré ce crime dans son dessein éternel. Et en ce sens, il a préordonné ce crime dans son dessein. Il a prédéterminé ce crime dans son dessein éternel. Voilà. Alors vous voyez, pourquoi mon cinquième exemple, je l'avance devant vous, sans douter une seconde des affirmations que je fais, mais en me rendant compte que c'est au risque de choquer et peut-être même de heurter profondément tel ou tel d'entre vous. Vous voulez me poser une question?
Ce que je ne comprends pas, c'est dans la mesure où on dit Félix Coupin, Dieu dans le temps a besoin de la chute pour manifester ses attributs.
Alors là, vous tombez dans l'autre exemple que j'avais donné. Vous tombez dans l'exemple de la nécessité et de la liberté. Vous voyez? C'est le deuxième exemple. Hein, c'est le troisième exemple que j'avais fait. Et oui, parce que là aussi, nous prenons ensemble la nécessité selon l'intelligence divine et la liberté selon la. Vous voyez? Il faut prendre ensemble deux choses. Alors, j'espère quand même si. Vous posez beaucoup de questions, c'est bien, oui, on s'en pose jamais assez. Posez beaucoup de questions, mais vous voyez, pourquoi Vantil défend à la fois la direction trop systématique que doit avoir la pensée chrétienne et le côté anti-systématique qu'elle doit avoir. Et là aussi, il n'y voit pas de contradiction. C'est-à-dire que les gens diraient, ah, mais bien on est trop systématique, alors on ne peut pas être anti-systématique. Ou bien alors on est anticipatif, on ne peut pas être anticipatif. Et là encore, Vantil affirme les deux. On pouvait prendre ça aussi comme exemple, comme sixième exemple. C'est-à-dire, au fond, en affirmant à la fois la pensée chrétienne systématique et anti-systématique, et oui. Voilà la question. Vantil est un système, c'est-à-dire une pensée d'ensemble ou un ensemble de pensées, tenant compte de l'anti-système. Et c'est pourquoi le système que préconise Vantil est un système analogique. Au fond, si vous voulez, il faut dépasser le pro-systématique et l'anti-systématique en parlant d'un systématique analogique. Alors, donc, le titre de l'ensemble de cours où nous entrons aujourd'hui, c'est au sujet de l'analogie. Faisons bien attention, le mot analogie peut prêter à confusion parce que beaucoup emploient le terme analogie à propos du langage et pour signifier que le langage doit être figuré par opposition à littéra. Mais ce n'est pas au sens d'une doctrine du langage que Vantil parle d'analogie. Quand il parle d'analogie, il veut dire que toute réflexion humaine, toute connaissance humaine, de quelque ordre qu'elle soit, présuppose comme son ultime fondement la réalité du Dieu de la Bible et par conséquent l'autorité de la révélation biblique. Pour bien faire saisir le concept vantilien d'analogie, nous en traiterons sous trois titres, analogie et Dieu, analogie et révélation, et enfin analogie et logique. Donc je pense que lorsque nous aurons traité sous ces trois titres du concept vangélien l'analogie, vous aurez dans l'esprit une idée claire de ce que Vangil entend par ce concept. Donc tout d'abord, c'est ce que nous traiterons aujourd'hui, analogie et Dieu. Puisque Dieu est le créateur et le recteur de l'univers et de l'homme, c'est lui seul qui détermine tous les objets de notre connaissance. Autrement dit, Dieu est l'interprète infini, ultime et souverain de toute réalité. L'homme, lui, ne peut être que le réinterprète fini de la réalité. Donc vous voyez, c'est ça la première chose qu'il faut bien clairement avoir dans l'esprit. Dieu est l'interprète infini de toute réalité. L'homme, lui, ne peut être que le réinterprète fini de la réalité. Puisque Dieu, dans son absolue conscience de soi, est l'interprète de tous les faits, de tous les événements, de tout l'ensemble de la réalité, la connaissance humaine ne peut qu'être analogie de la connaissance divine. Elle dépend en arrière, en quelque sorte, de la connaissance divine. Le mot analogie a comme racine ana et logos. Alors ana en grec signifie précisément en arrière. Donc cela signifie que derrière toute pensée humaine, tout logos humain, derrière tout logos humain, il y a le logos de Dieu. Autrement dit, ma pensée d'homme ne peut que s'appuyer en arrière d'elle sur la pensée divine. L'homme ne peut que réinterpréter ce que Dieu a d'abord interprété. Dieu est l'interprète sur lequel l'interprétation humaine est possible. Donc vous voyez, le sens très précis, j'allais dire presque technique, dans lequel Vangil emploie le mot analogie. Donc vous voyez, l'analogie n'a rien à voir avec ce qu'on appelle ordinairement l'analogie, mais l'analogie signifie très exactement que notre connaissance, notre pensée, notre réflexion ne peut avoir cours que parce qu'en arrière d'elle, il y a l'interprétation, la connaissance, la pensée de Dieu. Dieu est le grand interprète infini et l'homme, lui, doit reconnaître qu'il n'est que le réinterprète fini. Puisque tous les éléments de la réalité n'existent qu'en vertu de l'interprétation de Dieu, l'interprétation humaine de ces éléments de la réalité dépend finalement de l'interprétation divine. On peut dire, même si ça a l'air un peu compliqué, au fond c'est pas si compliqué que ça, la connaissance qu'a l'homme des réalités est une réinterprétation de l'interprétation que Dieu a de ses réalités. Et le raisonnement analogique commence avec l'assomption, c'est-à-dire le raisonnement analogique commence avec l'assomption que Dieu est à la fois la source de toute réalité, le créateur recteur de toute réalité, et l'interprète de toute réalité. L'homme ne peut être créateur, si on veut employer le mot créateur, et interprète, si on veut employer le mot interprète, que d'une manière seconde. Il ne peut créer et interpréter que ce qui est déjà créé et interprété par Dieu. Alors vous voyez, là c'est en ce sens que la force chrétienne s'oppose à toutes les prétentions humanistes qui devaient faire de l'homme le créateur et l'interprète par excellence de l'univers et des réalités créées. Non, l'humanisme est une fausse religion et la pensée humaniste est d'une prétention exorbitante. Vouloir faire de Dieu, de l'homme, le créateur et l'interprète de l'univers. Non, c'est Dieu qui est le créateur et l'interprète de l'univers, et l'homme ne peut être, je le répète, que créateur et interprète en second, c'est-à-dire il ne peut être que le re-interprète de l'interprétation divine. Au bout du compte, ce n'est pas l'homme qui détermine la nature et le sens de l'univers. L'homme naît et ne vit que dans un monde structuré par Dieu. Qu'il le sache ou non, qu'il le veuille ou non, qu'il le reconnaisse ou non, c'est comme ça. Alors, on peut employer, mais alors là, quand il rejoint des penseurs et des théologiens chrétiens tout à fait classiques, il emploie les mots archétypiques et ectypiques. Le mot tupos en grec veut dire un modèle. Et alors, la connaissance de Dieu est archétypique, en ce sens qu'elle est le premier modèle. Tandis que la connaissance humaine, notre connaissance, est ectypique, c'est-à-dire qu'elle est tirée de, ex, ça veut dire hors de, elle est tirée du premier modèle. Au fond, Dieu est, et nous apporte le premier modèle, et nous ne pouvons avoir une connaissance que tirée de ce premier modèle. C'est dans ce sens donc qu'on peut dire que nos vieux théologiens disaient, ils avaient raison, la connaissance de Dieu est archétypée, vous savez que arché, ça veut dire le commencement, ça veut dire le principe. Hein, donc la connaissance de Dieu est première, elle est archétypée, tandis que notre connaissance est ectypée. C'est pour manifester qu'elle est seconde par rapport à la connaissance de Dieu. Un modèle humain de connaissance est second par rapport au modèle unique et divin de la connaissance. Pour employer un vocabulaire de Vantil, ça me fait un petit peu mal d'employer ces expressions, parce qu'en français c'est vraiment des néologismes un peu barbares. Vantil dit que la pensée de Dieu est créativement constructive, la pensée de Dieu est créativement constructive, tandis que notre pensée est réceptivement reconstructive. Je répète, la pensée de Dieu est créativement constructive, tandis que notre pensée est réceptivement, par opposition à créativement, reconstructive, par opposition à constructive. Dieu interprète absolument, l'homme est le re-interprète de l'interprétation de Dieu. Et cette distinction rend compte à la fois d'un fait et d'une norme. Le fait, c'est que la pensée humaine ne peut jamais être que réinterprétation, que cette réinterprétation soit vraie ou fausse, fidèle ou infidèle, reconnue comme réinterprétative ou prétendument créative. C'est un fait. La pensée humaine ne peut, n'a jamais été, n'est et ne sera jamais que réinterprétation. Et c'est sûr, dans le domaine scientifique, c'est clair et net. Chaque fois que les hommes découvrent et énoncent une loi dans quelque domaine scientifique que ce soit, ce n'est pas eux qui créent la loi, même si on leur attribue le nom de cette loi. On dira la loi de la voix. Mais en réalité, ça veut dire simplement que Lavoisier a découvert
Constitution, ce que j'ai découvert, c'est valable, c'est sérieux. Il n'a fait que découvrir une loi établie par Dieu. Si bien que toutes les lois qu'on attribue à des hommes sont en réalité des lois de Dieu que les hommes ont redécouvert, ont réinterprété. Donc en science, ce serait une prétention exorbitante que d'imaginer que c'est Lavoisier qui impose dans un certain domaine physique une loi. C'est pas l'homme qui impose à la réalité une loi. C'est Dieu qui a imposé à la réalité une loi, et l'homme, le savant, il découvre cette loi que Dieu a imposée à la réalité. Donc on voit bien par là que l'homme est le réinterprète de l'interprétation de Dieu. Et ça, c'est un fait. C'est un fait que nous, chrétiens, bien sûr, nous reconnaissons, nous voulons bien reconnaître, et encore pas toujours, mais les chrétiens doivent le reconnaître. Et je dis, même s'il y a des gens qui, pour ne pas le reconnaître, même s'il y a des athées pour le nier, le fait est là, il y a un fait. C'est que la pensée humaine ne peut jamais être réinterprétation. Elle n'est pas créativement constructive. Oui.
Dans l'art, par exemple, tout ce qui est
peinture à pied, est-ce
qu'on
peut dire
que c'est une
réinterprétation,
non pas une
création de l'art ? Oui, alors, votre question est excellente, parce qu'elle amène à des précisions. C'est qu'en fait, il n'y a de possibilité d'art qu'à partir de la création de Dieu. Bon. Alors, attention, ça ne veut pas dire que le seul art possible, ce soit un art d'imitation. Que par exemple, l'idéal, ce serait un peintre qui ne ferait que reproduire exactement sur son tableau ce qui est dans la réalité. Non, parce que, justement, il n'y a pas, il y a une intervention du don personnel de l'artiste qui va donc représenter d'une certaine façon la réalité créée, mais je dirais en mettant dans cette interprétation son génie propre, ses dons personnels. Mais le problème, si vous voulez, de l'art, comme d'ailleurs des sciences, c'est qu'il peut y avoir des interprétations qui manifestent la révolte de l'homme contre Dieu. Il peut y avoir aussi de fausses interprétations. Et ça, c'est dans le domaine de l'art, c'est dans le domaine de la science. Par exemple, on peut, même de bonne foi, un savant peut croire avoir découvert une loi et en fait s'être trompé. On s'en apercevra par la suite. Ce qui prouve quand même la réalité d'une loi, c'est finalement la technique, c'est-à-dire l'application de la loi. Par exemple, je prends l'exemple de l'aviation. Bon. Eh bien, si vous voulez, il y a des lois concernant la gravitation, il y a des lois concernant le rapport entre la vitesse et le poids, etc. Bon, on ne pourra construire un avion ou une fusée qui marche qu'en tenant compte d'un ensemble de lois qui sont constitutives de la réalité. Bon, évidemment, si l'on se trompe à un moment dans les calculs, ou si l'on s'est trompé dans la réalité d'une loi, eh bien, on va aboutir à des expériences catastrophiques. Bon, et c'est quelquefois parce que l'expérience a prouvé qu'on s'était trompé sur un point ou un autre qu'on a pu corriger théoriquement d'abord et ensuite pratiquement la chose. Alors, de même, pour l'artiste, c'est la même chose. C'est sûr que vous avez certaines formes de l'art qui ont une volonté tendancieuse contre Dieu. Mais même lorsqu'il y a une volonté tendancieuse contre Dieu, l'artiste il ne peut finalement, pour prendre l'exemple d'un peintre, il va pouvoir jeter des couleurs sur une toile que selon des lois de la réalité créées par Dieu. Autrement dit, même dans sa révolte contre Dieu, l'homme est obligé de s'appuyer sur ce que Dieu a établi. Si vous voulez, il y a une image que je vous ai peut-être déjà citée. Il dit, un enfant ne peut gifler son père que s'il est sur les genoux de son père. Bon, si vous voulez, c'est pas plus qu'une image. Mais il veut dire par là que même celui qui se révolte contre Dieu ou qui se révolte contre cette forme de la réalité créée, il ne peut le faire qu'en s'appuyant sur le fait que Dieu est le créateur et le réalisateur de l'univers, et sur le fait que Dieu a énoncé des droits pour chaque domaine de la création. Et donc, c'est vrai qu'un artiste peut donner une fausse interprétation de l'univers, et quelquefois même volontairement, il veut exprès, j'allais dire, s'il le pouvait, violer ce que Dieu a établi. Mais même lorsque il viole ce que Dieu a établi, il ne peut le faire qu'en s'appuyant sur les réalités que Dieu donne dans sa création, aussi bien dans le monde extérieur que le peintre, par exemple, va reproduire, que dans l'intelligence et dans l'imagination de l'homme lui-même, parce que Dieu est non seulement le gouverneur et le recteur de tout ce qui existe, mais il est aussi le recteur de notre intelligence, de notre volonté, et ça. Sinon, l'artiste va se servir d'une pensée que Dieu a créée, d'une main que Dieu a créée, de lois sur les couleurs que Dieu a créées, ou d'un matériel dont Dieu est le souverain recteur, pour exprimer même sa révolte contre Dieu. Et c'est là où l'image, pour qu'un enfant juste son père, il faut qu'il soit sur les genoux de son père. Hein. C'est en ce sens que quand il parle. Est-ce que je réponds un peu à votre question? Bon. Alors, donc le fait, c'est que la pensée humaine ne peut jamais que vaincre des raisons. Mais la norme, c'est que la pensée humaine doit reconnaître qu'elle n'est jamais que réinterprétation. Car notre pensée ne peut penser que à la manière d'une créature, c'est-à-dire analogiquement. Donc vous voyez, il faut bien distinguer le fait de la norme. Le fait, c'est que de toute façon, la pensée humaine ne peut être que réinterprétative. Mais la norme, c'est que la pensée humaine doit le reconnaître, ça. Elle doit le reconnaître. C'est ça, je dirais, l'humilité du savant, ou l'humilité de l'artiste, ou l'humilité de l'homme, quel qu'il soit, il doit reconnaître que c'est comme ça que la condition d'homme, si vous voulez, la condition de l'homme, c'est qu'elle n'est jamais que réinterprétée. La pensée humaine n'est jamais que réinterprétée. Alors, notre, il découle de cela, que notre raisonnement analogique n'est donc pas seulement dépendant de Dieu, ça, de toute façon, il ne sera plus là, mais il doit se vouloir et devenir de plus en plus consciemment dépendant. Ce qui n'est pas le cas plus. Donc vous voyez bien, notre raisonnement analogique n'est donc pas seulement dépendant de Dieu, mais il doit se vouloir de plus en plus consciemment dépendant de Dieu. Autrement dit, Dieu, le Dieu vivant, le Dieu créateur et recteur de l'univers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, Dieu est et doit être le point de référence suprême de notre pensée. Comme d'ailleurs, il doit être le point de référence suprême de notre vie. Le raisonnement analogique, le système de pensée analogique, reconnaît Dieu, et la parole de Dieu qui est la Sainte Écriture, comme l'autorité ultime, comme le critère ultime de la vérité et du mensonge, du droit et du faux, du possible et de l'impossible. Et alors c'est là où on peut prendre le mot analogique dans sa plénitude de sens. Notre raisonnement analogique doit se rendre au logos de Dieu. Notre interprétation analogique doit se rendre à l'interprétation souveraine de Dieu. Et pour reprendre une expression de saint Paul, notre pensée, toute pensée humaine, doit être amenée captive au pied de Jésus-Christ. Et alors ça, évidemment, il faut bien voir que le péché, au sens fort de ce mot, le péché consiste précisément à ne pas vouloir se rendre à Dieu, à ne pas vouloir se rendre à Jésus-Christ, à ne pas vouloir se rendre à l'autorité de l'Écriture sainte. C'est-à-dire que l'homme a la prétention, finalement, de ne pas être référé à Dieu. Or, attention, il est référé à Dieu de toute façon. Parce que s'il n'accepte pas d'être référé à Dieu dans la grâce, il va être référé à Dieu dans le jugement. Et de toute façon, il n'échappera pas à la référence suprême et absolue qui existe. Je passe maintenant au deuxième paragraphe de mon cours. Il y a, alors vous pouvez l'intituler ce petit paragraphe, continuité et discontinuité. Mais tout ça, bien sûr, à l'intérieur du titre de analogie et Dieu. Il y a à la fois continuité et discontinuité entre les pensées de Dieu et celles de notre raisonnement analogique. Il y a continuité, car notre raisonnement analogique, pour être valable, pour être vrai, doit s'accorder à la pensée de Dieu. Et il y a discontinuité, car notre raisonnement analogique ne sera jamais divin, c'est-à-dire ne coïncidera jamais exhaustivement avec la pensée divine. Le slogan vantillien, penser les pensées de Dieu après lui, c'est un slogan que souvent Vantil répète, penser les pensées de Dieu après lui, signale à la fois la continuité, il faut que nous pensions les pensées de Dieu, et la discontinuité après lui. Alors ici, ça m'amène à vous faire une toute petite parenthèse, mais enfin qui peut intéresser certains d'entre vous. Vous savez qu'un des plus grands penseurs philosophiques, malheureusement pas assez connu à bien des égards, c'est évidemment Thomas d'Aquin. D'ailleurs, c'est très frappant que Thomas d'Aquin définit la vérité comme l'accord de notre pensée avec le réel. On ne veut pas dire que ce soit faux. La vérité d'une pensée, c'est de s'accorder avec le réel. Mais il y a un danger. Parce que on peut poser la question, qu'est-ce que le réel? Et c'est pourquoi il vaut mieux suivre l'enseignement évangélique quand Jésus dit, la vérité c'est moi. Et donc, au fond, la vérité, c'est dans l'accord de notre raisonnement analogique avec la pensée de Dieu. Donc, ce qui est important, c'est, bien sûr, c'est avec le réel, parce qu'il n'y a pas plus réel que Dieu. Mais je crois que dans la pensée thomiste, il y a un risque quand même d'autonomie par rapport à la pensée de Dieu et donc par rapport à la révélation. Le risque ne sera peut-être que dans le domaine naturel, parce que dans le domaine surnaturel, Thomas d'Aquin voudra se plier à la révélation de Dieu. Mais même dans le domaine surnaturel, si bien qu'il vaut mieux dire la vérité est dans l'accord de notre pensée avec la pensée de Dieu, avec la révélation de Dieu, hein, plutôt que de dire que la vérité est dans l'accord de notre pensée avec le réel. Mais je crois que il y a un sens tout à fait acceptable dans lequel nous devons dire la vérité, c'est l'accord de notre pensée avec le réel. À condition de savoir que le réel, c'est d'abord Dieu, et ensuite, c'est le réel en tant que création de Dieu. Donc, un, notre pensée doit se conformer de plus en plus à la pensée de Dieu, c'est-à-dire à la révélation de Dieu. Et deux, nous ne devons jamais confondre, identifier notre pensée à celle de Dieu, car notre pensée est toujours seconde par rapport à la sienne. Alors là, je vous cite Romains 12, 2, « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qu'il agrée, ce qui est parfait. » Alors là aussi, une petite remarque au sujet de la traduction. Dans la plupart de nos traductions, enfin dans beaucoup de traductions, on dit « Quelle est la volonté de Dieu ? Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. » Il faut faire gaffe. Parce que le mot français « agréable » n'a pas du tout son sens primitif. Hein? Si nous disons « La volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait », nous risquons de nous fiche dedans. Parce que le vrai sens du mot « agréable », ça veut dire ce que Dieu agrée. Donc, il faut faire attention. Moi, je veux bien qu'on traduise agréable, à condition de savoir qu'on met agréable en son vrai sens. Qu'est-ce qui est agréable ? C'est ce qui agrée à Dieu. Ce qui est agréable, c'est pas, au sens moderne du mot, on dit, oh, ben, voilà, une maison agréable, voilà, une promenade agréable, voilà, voilà, une femme ou un homme agréable. Et là, c'est plus du tout dans le même sens. Donc, je dis ça, c'est une petite parenthèse, mais enfin, il faut. Il nous faut bien reconnaître la discontinuité pour que la continuité ait son cours. Si nous ne distinguons pas clairement entre la pensée de Dieu et la nôtre, comment pourrions-nous reconnaître l'autorité de la pensée de Dieu sur la nôtre? Et inversement, il faut bien reconnaître la continuité pour que la discontinuité ait son sens. Parce que si nous ne voyons pas qu'il doit y avoir continuité entre la pensée de Dieu et la nôtre, comment chercherions-nous à diminuer la distance, la discontinuité entre la pensée de Dieu et la nôtre? Donc vous voyez que continuité et discontinuité sont deux termes, comment dire ça? Ce sont deux termes qu'il faut entendre ensemble. Il ne faut pas séparer continuité et discontinuité. Je ne peux vraiment comprendre la continuité que si je prends la discontinuité et vice versa. Alors vous voyez que mon deuxième paragraphe a été très court, puisque maintenant j'aborde le second point de la doctrine quantisienne de l'analogie. Nous allons voir rapidement analogie et Dieu, et maintenant analogie et révélation. Si le raisonnement analogique ou la méthode analogique de raisonnement consiste à amener nos pensées de créature en accord, bien que non en identité, avec les pensées de Dieu, comment allons-nous procéder? Certainement pas, comment cela serait-il possible, par quelque intuition qui pourrait pénétrer les pensées divines et nous permettrait de distinguer, par exemple, entre une tomate et une pomme les comparant. Ce n'est pas l'intuition qui va nous aider. Nous ne connaissons, nous ne pouvons connaître de Dieu et de ses pensées que ce qu'il a bien voulu nous en révéler. Autrement dit, nous n'avons pas d'autre suraccès à la pensée de Dieu que sa propre révélation volontaire de lui-même et de sa pensée, c'est-à-dire sa part. Le concept biblique de parole est un concept extrêmement profond, parce que la parole de Dieu, c'est à la fois la parole incarnée de Dieu, qui est Jésus-Christ, et c'est aussi la parole soufflée de Dieu, hein, c'est le sens du mot Théophostos en fait, ou la parole écrite de Dieu, parce que la parole écrite de Dieu que nous avons dans la Bible, c'est la parole que Dieu a soufflé. C'est le sens du Théophostos. C'est difficile de traduire le Théophostos. Vous savez qu'on traduit quelquefois inspiré. Mais vous auriez mieux dit alors expirer, parce que le sens, c'est que c'est une parole qui vient du souffle de Dieu, qui est soufflée par Dieu. Théopneustos, ça veut dire soufflé par Dieu. Alors vous voyez, le mot inspiré est un mot un peu ambigu. Et le mot inspiration, d'ailleurs, est un mot un peu ambigu. Parce que quand on parle de l'inspiration du poète, ou de l'inspiration de l'artiste, ou de l'inspiration du savant, on est très loin du compte. En réalité, l'Écriture sainte, c'est le résultat écrit du souffle de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu, c'est le souffle divin qui a conduit les prophètes et les apôtres à écrire ce qu'ils ont écrit, si bien que l'Écriture sainte est la parole de Dieu écrite. C'est l'expression écrite de la parole de Dieu. Alors au fond, quand on dit la parole de Dieu, bibliquement, on veut parler de Jésus-Christ et de l'Écriture sainte. De Jésus-Christ, puisqu'il est la parole éternelle faite chair. Hein? C'est logo, quand il y a l'affirmation dans Saint Jean, logos, ça c'est geneto, la parole a été faite chair. Hein? qu'elle a dictée par une vingtaine de grâces et de vérités, Jésus-Christ est la parole de Dieu. En ce sens qu'il est la parole incarnée de Dieu, il est le Fils de Dieu incarné, il est le Fils éternel du Père incarné, il est la seconde personne de la Trinité incarnée. Donc en ce sens, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Mais, si cela nous est affirmé, en particulier dans le prologue de Saint Jean, la parole de Dieu aussi, dans la Bible, c'est précisément la Bible elle-même. Et c'est pour ça que Jésus dit, par exemple, un jour, on l'interrogeait sur le mariage. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, commencement, tout à l'heure, comme ça. Jésus-Christ renvoie à l'Écriture qu'il faut lire comme étant l'expression même de la vérité de Dieu. Et souvent, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on trouve le Saint-Esprit dit. En réalité, oui, c'est le Saint-Esprit qui le dit. Mais qui le dit comment? Il le dit par l'intermédiaire ou par le ministère de Moïse ou de David ou d'autres. Mais c'est l'Esprit qui dit, l'Esprit qui est la vérité, l'Esprit qui est la troisième personne de la vérité, c'est l'Esprit qui dit ce que dit l'Écriture. Ça ne veut pas dire que les écrivains bibliques ont écrit comme des automates. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été comme sous une dictée mécanique de Dieu. Non, l'Esprit de Dieu s'est tellement emparé, non seulement de la pensée, et du vocabulaire et de la main des auteurs sacrés, que ce que ceux-ci ont écrit, c'est ce que Dieu voulait qu'il soit écrit comme exprimant sa vérité, comme étant sa parole. Et donc, ça en tout cas, jusqu'au XVIIIe siècle, il y a eu unanimité dans l'Église, d'Orient et d'Occident, dans le catholicisme romain comme dans le protestantisme, l'Écriture sainte est la parole de Dieu, et la parole soufflée de Dieu. Comme disait Calvin, quand nous lisons l'Écriture, c'est comme si nous oyons, comme si nous écoutions Dieu parlant de sa propre bouche. Donc, c'est très important, ça, parce que c'est là où l'on a la possibilité d'une vraie pensée analogique. On a une référence à la vérité qui est Jésus-Christ, à la vérité qui est la Sainte Écriture. Tandis que sans ça, évidemment, nous n'aurions pas.